Mes bien chers amis, vous avez dû apprendre par les journaux qu'un nouveau déshabillé est maintenant lancé sur le marché et sur les plages. C'est le monokini. Le bikini fut un scandale à son apparition. Il l'est d'ailleurs encore un scandale. Eh bien, nous n'en étions pas à notre dernière surprise au Le Coeur en la matière, puisque l'une des deux pièces du bikini disparaît à présent. Tout simplement. Il faut voir comment les journaux annoncent l'événement, comme un fait divers. Ils prennent soin de dire que l'innovation de cette mode ne provoque aucun incident. Par ce petit commentaire rusé, les journaux font passer l'idée, ils font accepter la mode du monokini, faisant croire à une chose toute naturelle. Ils écrivent par exemple, la mode avait été lancée par une starlette dans une piscine de Munich en Allemagne. Cette présentation n'avait suscité aucun incident. Un autre journal parle des femmes de l'Inde qui n'osent pas se baigner, même en costume de bain d'il y a 20 ans, parce que les femmes de ce pays portent des robes jusqu'à la cheville. La police des lieux ne s'inquiète pas le moins du monde de l'apparition d'un maillot sans corsage, parce que la population tient compte elle-même de la modestie. Elle n'a pas besoin de la police. Le monokini serait considéré comme une curiosité d'étalage uniquement. Personne n'aurait l'audace de l'exhiber. Mais, ô perfidie, le même journal termine son reportage en disant que dans certaines régions des Indes, cependant, on se baigne sans corsage et que personne n'y accorde la moindre attention. C'est à ne rien comprendre dans l'article. Une contradiction, un mensonge, quoi, pour faire avaler le monokini encore. C'est ainsi que les journalistes de 1964 se font les agents de mœurs damnées, tout en ayant l'air très prudes. Leurs confrères de la radio et de la télévision, avec leurs farces provocatrices, ne sont pas moins fourbes. Quelle est donc la femme qui aura le courage de porter le monokini la première, disent-ils. Et de notre bon peuple, qui prend sa philosophie dans les journaux et la radio-télévision, ingurgite et digère petit à petit le poison des modes 1964. Pas tout le peuple, heureusement. Nous remarquons que les protestations contre ces mœurs sauvages se font de plus en plus fréquentes et énergiques. On s'insurge un peu partout contre les déshabillés hardis, impudents, cyniques. On ne le fait pas assez encore cependant. Si tous ceux à qui il reste un peu de sens de la mesure, de la beauté, de la pureté, parlaient tout haut sur la place publique, leur plainte pourrait être aussi forte que les accords stridents des orchestres de jazz ou de twist. Les gémissements des braves gens pourraient encore couvrir les hurlements des suppôts de Satan, peut-être, s'ils s'exprimaient ouvertement, et ils pourraient réussir à secouer cette élite endormie qui aurait dû, sur les tribunes qu'elle occupe, crier après notre Seigneur, « Malheur à celui qui scandalise un seul de ses petits. » Il y a trop de viande au menu. Quelqu'un a eu le bon sens de dire ça. Trop de chair humaine à vendre, étalée sur les perrons, les trottoirs, des corps, des corps, des corps humains qui traînent dans la rue, qui s'exhibent, qui font la roue comme des bêtes de parade. Mais c'est la jungle des fauves, le harem des païens, ou c'est le marché des esclaves. Où sommes-nous donc? L'esprit, où est-il? Où est l'esprit de l'homme? L'homme n'a-t-il plus une âme qui l'anime? Une âme créée à l'image et à la ressemblance de Dieu, pur esprit. L'esprit, mais il est submergé, noyé dans la chair. L'esprit, vous ne le voyez plus. Peut-être qu'il est mort. On est surpris du peu de valeur intellectuelle, du peu de valeur spirituelle de nos universitaires. Ils savent parler, ils connaissent la grammaire, mais ils ne savent pas penser ni aimer la vérité. Comment fait foi la lettre que nous avons reçue de Simone Guillet, directrice du service des documents publics de la Bibliothèque centrale de l'Université de Montréal, et signée aussi de Michel Guillet, directeur de la bibliothèque du Collège Sainte-Marie. Ces deux directeurs de bibliothèque nous reprochent des fautes de syntaxe dans notre circulaire qui dénonce les grossièretés de la télévision. Et ils critiquent en même temps nos vues sur la télévision, bien entendu. C'est cette dernière chose qui les énerve plutôt que nos fautes de grammaire. Nous leur répondons à ces universitaires que nous croyons que la grammaire est une technique nécessaire aux relations sociales, mais que la grammaire sans les mœurs ne sauvera pas la civilisation. C'est un corps sans âme. C'est matérialiste comme le communisme athée. Nos universités peuvent très bien enseigner la grammaire, mais elles sont loin d'être des temples de vérité, de la vérité éternelle. Elles sont des monuments élevés à la gloire de la technique. La pensée pure, recherchée pour elle-même, n'est plus chez elle dans nos universités. C'est la pensée prostituée à la solde de l'argent qui y gouverne. L'esprit est submergé par la matière. L'âme est noyée dans le corps. Pas surprenant que notre élite ne se soit pas élancée sur le champ de bataille pour ériger une muraille de principes de religion et de civilisation contre les modes avilissants de notre société, contre le nudisme sauvage que notre bon monde se croit obligé d'afficher. Loin de là, notre élite a pris les devants dans l'immodestie. Nous avons en main un semainier paroissial de l'église de l'Immaculée Conception de Montréal, dimanche 5 juillet. Illustration, une grande fille en shorts, avec des fillettes dans le même costume. La mère de famille qui résiste à son enfant qui veut porter des shorts, pourra-t-elle trouver des arguments contre le semainier des pères jésuites? Et nous voyons dans certaines annales religieuses des presque nus en quantité et des amoureux enlacés. Prétend-on que ces images soient des invitations à la vertu? Et pourquoi laisse-t-on parader, même jusque dans les églises, les majorettes avec les cuisses à l'air? Quelle irresponsabilité choquante vis-à-vis d'un peuple qui attend la lumière d'en haut! Dans l'Osservatore Romano, journal du Vatican du 19 juin, nous relevons les phrases suivantes qui sont une condamnation non seulement des vêtements indécents, mais des vêtements débraillés, en même temps que tout ce déchaînement de l'instinct dont notre monde est témoin. Je lis le journal du Vatican. Les journaux sont remplis d'épisodes d'anarchie collective de jeunes et d'adolescents qui en viennent à organiser l'agression sans autre but que de créer du désordre. Les membres de ces bandes de désaxés sont désormais dénommés voyous. Il ne s'agit pas ici d'enfants des bas-fonds, venus des couches les plus basses, troubles ou malheureuses de la société. Il s'agit d'étudiants et d'ouvriers, fils de familles normales. L'abjection du comportement et des mœurs est recherchée et voulue contre toute logique sociale, voulue de préférence et consciemment pour le sadique désir de renverser tout ordre reconnu dans le plan familial et social. C'est un besoin de rompre avec quelque chose, d'insulter à la raison, de ne pas accepter de règles, de ne respecter aucune loi morale et sociale. Et le journal du Vatican continue. Il y a aussi l'impulsion qui pousse hommes et femmes de conditions économiques fortunées à adopter des tenues vestimentaires négligées, désordonnées, des modes de nomades et de bohèmes, à porter une chevelure embroussaillée, à aller nu-pieds, tandis que les vrais va-nu-pieds soupirent après une vraie paire de chaussures. Il semble que de plus en plus pénètre dans certains secteurs de la vie humaine la satiété de la raison, le refus de toute logique, la rébellion contre la cordialité dans la vie sociale. L'instinct demande à se déchaîner là où il a toujours été freiné. Peut-on s'étonner si ces expériences désarticulées veulent rejeter toute règle vont submerger l'esprit et la volonté, et si elles engendrent le déboussolage, la satiété, la désillusion, le désespoir enfin. Le suicide des jeunes est un fait déconcertant, déchirant, qui vous remplit d'épouvante. L'article du Journal du Vatican se termine par ces mots : ce sont là les fruits de l'absence de Dieu. En effet, mes amis, c'est Dieu qui tient l'ordre, qui est l'ordre. Et c'est un homme avec Dieu qui peut rester dans l'ordre. Notre temps, hélas, se caractérise par le refus de Dieu, la négation de Dieu, comme Lucifer l'a fait et continue à le faire. Dieu, c'est l'ordre. Dieu, c'est l'esprit. L'homme, composé de corps et d'esprit, doit soumettre son corps à l'esprit qui est supérieur. Il doit soumettre son corps et son esprit à Dieu, qui est le seul maître, et qui est le maître en effet. Un corps soumis à sa place qui est l'inférieur, un corps caché en présence de l'âme et de Dieu, un corps modeste, voilé, à l'écart, pour permettre à l'âme qui l'anime de s'épanouir, et pour permettre aux autres âmes qui fréquentent cet homme de s'épanouir aussi au contact des âmes. Les relations sociales, si multipliées d'aujourd'hui, seront nécessairement corruptrices si elles ne visent qu'au contact des corps. Les âmes qui s'unissent, c'est cela la destinée, la joie, le bonheur des hommes. Les âmes qui s'unissent en Dieu, avec les autres. Non vraiment, mes amis, ce n'est pas du bonheur que les hommes recherchent en se déshabillant devant les autres. C'est la mort de leur âme qu'ils trouvent, et l'usure de leur corps, et le malheur de la société. L'hypertrophie du corps, le corps trop gros, est une maladie mortelle. Elle tue l'âme, qui est le principe vital de tout l'être de l'homme. Nous avons donné, mes amis, le programme du journal vers demain.